le carton rouge, et je suis très étonné quand vous dites qu'il n'est pas question de pénal. Ben, heureusement. Pour ce qui est de notre collectivité, il n'est pas question de pénal. Le pénal, c'est pas nous. Ça ne sera jamais nous. Et heureusement, laissons faire ceux qui savent appliquer les peines, qui savent, il y a des gens qui sont là pour ça, et nous, on n'est pas là pour ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que nous ne réglerons pas les problèmes de circulation à travers les, ce que vous avez appelé les rodéos de moto. Ça existe, à dire, depuis 20 ans. Ça existera sans doute encore après. Et si nos agents arrivent à régler ça, eh ben, ils auront bien de la chance. Je confirme, comme l'a dit Eric Correa, que le commissariat a été régulièrement menacé. Je suis pas sûr que je voterai un vœu qui remet ça sur le devant de la scène. Un ancien ministre de l'Intérieur m'a appelé il y a pas très longtemps pour me dire « Est-ce que tu veux que je transforme Guéret en zone gendarmerie ?» Alors moi, j'ai beaucoup de respect pour les gendarmes. Je suis marié avec une fille de gendarme, alors je connais les gendarmes, je les ai connus toute ma vie. Mais j'ai dit « Non, c'est pas le sujet. » Mais m'a appelé pour me dire « Si tu veux, on met Guéret en zone gendarmerie, ce qui fait que ça aurait été pour le coup la seule ville de France qui n'aurait plus de commissariat, puisque vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de la seule ville de France. Alors moi, je voulais vous parler des caméras.
Monsieur, on va l'aborder, peut-être laisser quand même notre adjointe faire lecture de son rapport, et puis après, on peut peut-être aborder le problème des caméras.
Ah ben, je croyais que vous vouliez à votre disposition.
Je voulais joindre les deux sujets, mais je veux quand même que Madame Adrien puisse nous faire la lecture
très
de
bien,
son
très
rapport.
Très bien, très bien. Donc, j'interviendrai plus spécialement sur les caméras, mais je voulais rétablir ces choses-là. Quand les choses existent, il ne faut pas les inventer.
Monsieur Bernier, j'ai posé le contexte de la cellule de tranquillité. Je n'ai jamais dit que les rapports avec le commissariat n'existaient pas. Je vous ai posé le contexte dans lequel cette cellule se faisait avec, effectivement, de nouveau des rapports très clairs hebdomadaires avec notre adjoint. Après, moi, je vous dirais juste que je trouve dommage qu'on se satisfasse du fait de dire ça a toujours existé, ça existera toujours. On a envie d'essayer de faire en sorte que peut-être certaines choses s'améliorent. On ne partira pas du constat qu'on ne peut rien faire. Et je pense aussi qu'il faut entendre que les gens ont le droit de vivre dans la tranquillité et qu'on ne peut pas toujours se réfugier d'abord sur des chiffres qu'on ne veut pas donner parce qu'on va faire peur à qui. Je pense que la Creuse est quand même un département tranquille, tout le monde le sait, mais que ce n'est pas en cachant les choses qu'on rassure les gens. Savoir qu'il existe des dispositifs de prise en charge est aussi rassurant que de cacher les chiffres. Et puis, je pense que les gens, on peut les écouter quand ils nous disent « moi j'ai peur, moi je n'ose pas rentrer dans mon hall d'immeuble quand il y a certaines personnes qui y sont, je ne vais plus au cinéma parce que je me fais... parce qu'on me... m'accoste quand je sors », on peut l'entendre, ça aussi. Arrêtons de ne pas voir les choses en face. On peut le dire, mais si on met derrière des propositions, je pense que ça rassure tout autant que des chiffres qui ne sont pas donnés. Voilà. Et le procureur actuel est tout à fait dans cette dimension. Il est le premier à dire qu'on n'a peut-être pas assez non plus, non seulement communiquer sur ce qui se faisait vraiment, les chiffres réels, mais surtout sur ce qu'on était capable de mettre derrière, autant vous, à l'époque, que nous, maintenant. Voilà. Donc, oui, mais c'est ce que je vous dis, le procureur...
Non, je crois que il faut savoir aussi pouvoir discuter ce qui a été fait par le passé, les réponses qui étaient données individuellement quand vous receviez M. Bernier. Bien évidemment, personne ne dit que vous n'avez pas reçu, que vous n'avez pas, avec la ville, les agents qui font un travail important, réglé des situations. Ce que nous sommes en train de vous expliquer, et c'est ce qui a été notamment travaillé en commission, c'est justement de pouvoir rendre vérifiable, c'est-à-dire de se rendre compte, c'est-à-dire qu'il a été créé avec les agents et avec, donc, ça a été présenté en commission de travail, la possibilité d'avoir une sorte de procédure de recueil de réclamations. On s'est rendu compte, vous le saviez avant, que beaucoup de personnes pouvaient écrire à la mairie et que, généralement, ensuite, il n'y avait pas c'était sur le traitement de cette information. Et l'outil qui a été mis en place permet justement de savoir de quelle nature de réclamation il s'agit, d'incivilité, de réclamation qui nécessite l'intervention de la police nationale, et personne n'est là pour dire que c'est bien mal passé, nous allons prendre la place de la police nationale. Je suis trop respectueux des textes et des prérogatives de chacun. Et que c'est ensuite la réponse qui sera donnée. C'est une lisibilité pour savoir comment, quelle réponse va être donnée, comment. Cette cellule qui nous proposons de mettre en place, effectivement, va permettre à la fois la prévention, à la fois effectivement la constatation d'infraction, parce que c'est là aussi, c'est pénal en circulation, en matière de circulation, la police de l'environnement, pardon, le tabac nocturne, sécurité au bord des écoles, circulation gênante, c'est la possibilité de verbaliser. Alors, je ne sais pas ce qu'on met derrière le droit pénal, mais ça aussi, c'est le rôle de cette cellule. Et ça va être dans ce travail-là qui va être mis en place. Voilà ce qui est important de dire. Donc, c'est pas de dire que rien n'a été fait avant. C'est d'optimiser et de pouvoir ensuite le rendre vérifiable et que chacun puisse se rendre compte de tout ce qui se passe.
J'ai pas parlé de fichiers. De chiffres falsifiés. J'ai seulement dit que la réalité des chiffres n'était sûrement pas connue du grand public. Voilà. Bien. Où ? Eh bien, nos chiffres vont pouvoir compléter ceux des services de l'État et on aura une estimation encore plus fine de ce qui se passe sur le territoire. Sur cette cellule de tranquillité publique, Monsieur Delors.
Oui, brièvement. Alors, j'approuve très largement ce souci de la tranquillité publique. Il s'agissait, quoi qu'on en dise, effectivement, d'une promesse de campagne, et je vous félicite d'en poser rapidement les bases, et je dis bien les bases, avec cette volonté de présence sur le terrain et de prévention, médiation. Je me réjouis aussi, comme vous venez de le rappeler, de la mise en place des outils de suivi. Parce qu'en la matière, comme en bien d'autres, les chiffres ont leurs limites, mais sont indispensables pour rendre plus objectifs les constats et permettre de sortir des postures fréquentes en la matière. Je finirai en disant que ce à quoi croient les uns et les autres en la matière, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Par contre, nos concitoyens en ont observé les résultats ces dernières années et ils sont mauvais. J'entends enfin parler de la sécurité dans le département, certes, mais ici il s'agit du conseil municipal de Guéret.
D'autres interventions ? Bien alors, je vous demande d'approuver la création du service de tranquillité publique et de m'habiliter à signer tout document nécessaire à l'exécution de cette délibération. Y a-t-il des votes contre ? Trois, vous n'avez pas trois. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, c'est bon ? Des abstentions ? Je vous remercie. Donc je vous propose effectivement de passer au sujet du Fonds interministériel de prévention de la délinquance, Madame Adrien.
Les rapports annuels de sinistralité ainsi que les avis d'infraction pénale font état d'une augmentation des dégradations et des infractions sur le site de Fayolle, une dizaine par an. Ces éléments ont fait l'objet d'échanges au sein du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance et sont corroborés par le rapport de référence sûreté de la police nationale en date du 5 octobre 2020. Afin d'instaurer une situation sur ce site, la commune propose d'installer à titre expérimental un système de vidéoprotection. L'article 5 de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a créé un fonds interministériel de prévention de la délinquance destiné à financer la réalisation d'actions dans le cadre des plans de prévention de la délinquance et dans le cadre de la contractualisation mise en œuvre entre l'État et les collectivités territoriales en matière de politique de la ville. Le taux de subvention pour le projet de vidéoprotection se situe entre 20% et 50%. Il est donc proposé au Conseil de solliciter une subvention auprès du Fonds interministériel de prévention de la délinquance, de solliciter les subventions les plus élevées au titre de fonds interministériels de prévention de la délinquance pour l'installation d'un système de vidéoprotection à Fayolle, d'habiliter Madame le maire à signer tout document nécessaire à l'exécution de cette délibération.
Merci. Alors là aussi, donc, je vous propose un petit point de contexte. Donc, les caméras, on les envisage au nombre de 4. Bon, je redirai ce qu'a dit Madame Adrien, il s'agit d'une expérimentation. On sait que c'est un sujet qui est délicat, et donc on souhaite voir si ce dispositif est probant et s'il donne des résultats. Sinon, il est bien évident qu'on ne s'obstinera pas. Pourquoi on a choisi Fayolle ? Fayolle parce que depuis cet été, on y constate des groupes de jeunes, là aussi, qui font du commerce de produits illicites, qui inquiètent les ados qui fréquentent très très largement ce lieu de façon tout à fait pacifique et qui inquiètent les parents. La piscine a été vandalisée à plusieurs reprises, l'espace Fayolle de même, le gymnase. Les personnes qui fréquentent le club de gym sont interpellées. La région est inquiète suite à des remontées des jeunes filles de l'internat. Je vous ai parlé aussi du rodéo sur l'avenue Fayolle. Donc on a le constat d'association, du commissariat, notre propre constat, les utilisateurs du site. Je pense qu'on a suffisamment de personnes qui s'inquiètent de cet espace pour pouvoir se dire si on doit tester les caméras, c'est sûrement le lieu le plus adéquat. Donc c'est un dispositif qui est avant tout préventif, et qui peut aussi aider la police en cas de besoin. Je répète que ces bandes ne sont visibles que par les services de police s'il y a un délit et qu'elles s'effacent au bout d'un mois. Donc elles ne sont pas gardées, elles ne sont pas vues par n'importe qui. Je redis, moi, que je pense que les gens ont le droit de vivre en paix et que les jeunes, surtout, ont le droit de fréquenter cet espace de Fayolle en toute sécurité, sans être inquiétés. Donc, je répète aussi que sur Guéret, il y a déjà 309 caméras. Donc, on n'initie pas non plus le fait que des caméras arrivent sur la scène à Guéret. Voilà, donc une expérimentation dont nous tirerons les enseignements en positif ou en négatif pour voir si le dispositif s'arrête ou si on équipe d'autres endroits, puisqu'on a déjà aussi des inquiétudes pour les stades, par exemple, qui sont là aussi régulièrement vandalisés, ou pour, par exemple, la place du marché où beaucoup d'incivilités sont commises. Voilà ce que je voulais donner en élément de contexte. La parole est à vous. Madame Bonnard.
Oui, c'est pareil, sans surprise, également une intervention de notre groupe sur ce sujet, assez longue, plusieurs éléments que nous voudrions relever. En ces temps troublés, où certains citoyens continuent de s'interroger, et nous maintenons que ces interrogations restent bien légitimes, même en pleine crise sanitaire. Sur les atteintes aux libertés publiques, cette délibération concernant l'installation d'équipements de vidéoprotection ou vidéosurveillance sur l'esplanade Mandela nous laisse circonspects. Le bien fondé de cette installation nous interroge à trois niveaux. Tout d'abord, vous en avez parlé, vous évoquez une expérimentation. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir tout à fait compris ou d'avoir tout à fait la même définition de ce que c'est qu'une expérimentation. Alors, s'agit-il d'une expérimentation sur l'esplanade Mandela de dispositifs de vidéosurveillance avant une généralisation sur la ville? C'est ce que vous semblez nous indiquer. Ou s'agit-il d'une expérimentation sur cette place avec possibilité de renoncer ou de supprimer ces dispositifs? Avant votre intervention, cela ne paraissait pas très clair et auquel cas il faudrait s'interroger sur l'opportunité de cette dépense publique avec un reste à charge dans le plan de financement apparaissant à 20% mais qui peut aller jusqu'à 50% pour la ville quand même en matière d'investissement. De plus, il ne nous est donné dans ce rapport aucune indication sur le coût de fonctionnement annuel de ces caméras. C'est une demande qui vous a été faite lors de la commission mixte. Vous allez sans doute nous répondre sur ce point. Ensuite, pour justifier cette installation, vous évoquez des rapports de sinistralité, un rapport du correspondant de la police nationale, et vous évoquez le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Vous venez de le faire à nouveau, Madame l'adjointe. Donc j'aurais souhaité savoir quand est-ce qu'ils s'étaient réunis, combien de fois ils s'étaient réunis. L'ancien maire, une nouvelle fois, je le cite, semblait étonné la semaine dernière du lieu choisi. pensant qu'il y avait d'autres lieux dans la ville où les incivilités étaient peut-être plus importantes. Et une nouvelle fois, nous déplorons l'absence de données chiffrées destinées à éclairer les membres de cette assemblée. Il nous faut donc vous croire sur parole. Nous déplorons également l'absence de concertation avec les habitants de Guéret, bien sûr, mais aussi avec les usagers de ces espaces publics. Et ils sont nombreux, les usagers de ces espaces publics. La concertation est pour nous un préalable non négociable et elle ne peut se faire a posteriori. Vous avez évoqué les inquiétudes des parents. Quels parents ? Vous avez évoqué les inquiétudes des usagers de ces espaces. Quels usagers ? Nous aurions aimé, que la démarche repose sur un diagnostic de sécurité concerté avec l'ensemble des acteurs. S'agit-il d'une volonté de protéger les biens ? Vous avez parlé de dégradation. S'agit-il d'une volonté de protection des personnes ? Vous avez parlé de sentiment d'insécurité. Quel est le nombre de plaintes précisément ? Pour la ville, j'imagine que vous l'avez. Y a-t-il un chiffrage des dégâts ? Voici des éléments dont nous aurions aimé être informés. Nous aurions aimé qu'une stratégie globale, je le répète, soit définie en associant les actions de prévention, les actions de dissuasion, les actions de répression pour une politique équilibrée. C'est là où je reviens sur mon intervention précédente. Et nous aurions aimé que des critères d'évaluation soient définis, surtout dans le cadre d'une expérimentation. Enfin, sur le choix du lieu, la symbolique nous paraît terrible. Terrible au sens premier du terme. Vous installez des caméras de vidéoprotection sous couvert de qualité de vie sur l'esplanade Nelson Mandela. Évidemment, je ne vous ferai pas l'injure de rappeler à cette assemblée qui est Nelson Mandela. Je ne ferai pas l'injure de rappeler à cette assemblée qu'autour de cette place se rassemble la jeunesse de notre ville, les espaces culturels municipaux ou intercommunaux importants concernant le spectacle vivant, la lecture publique, un des hauts lieux de la pratique de la vie municipale, localado, ludothèque, gymnase, de la pratique associative de notre ville, borde cette agora, cette place située qui plus est à proximité immédiate d'un établissement scolaire. Alors oui, cette place, elle est fréquentée, et d'ailleurs je m'en réjouis. Alors oui, cette place est un lieu de rencontre, et d'ailleurs je m'en réjouis. Au-delà de l'utilité éventuelle ou réelle de ce type d'équipement, et les avis ne sont pas unanimes du tout dans la littérature sur le sujet, en l'absence de réelles évaluations de ces dispositifs. Cet équipement symbolise aussi cette société de surveillance dans laquelle nous sommes entrés depuis plusieurs années, et effectivement que vous n'avez pas initié, Madame le maire, avec des formes de contrôle exercées sur les citoyens, qui sont peut-être plus subtiles et plus masquées qu'elles ne l'ont été auparavant. Elles sont même parfois souhaitées, mais elles sont tout aussi graves. Nous pourrions vous dire que la délinquance, de toute façon, se déplacera, et que cela ne règle pas le problème sur le fond. Nous pourrions souligner que cette approche sécuritaire est une nouvelle fois un marqueur politique fort de votre action. Je pourrais évoquer aussi les menaces d'atteinte à la vie privée. Franchement, sincèrement, auriez-vous aimé être filmé à 15 ans, à 20 ans ? Aujourd'hui, souhaiteriez-vous être filmé ? Mais je m'inquiète également des menaces pesant sur la vie publique, quand ce sont l'émotion ou le sentiment qui gouverne et qui se substitue au débat et à la réflexion collective. Sous nos yeux, la société française se morcelle, selon la philosophe Cynthia Fleury, qui fait l'actualité en ce moment avec son livre sur le ressentiment. Ce processus qu'elle explique autour du ressentiment et de la dénonciation en boucle est très inquiétant pour nos sociétés. Nous n'avons pas envie d'y participer avec un discours ambigu sur l'insécurité de notre ville. Cela a été rappelé tout à l'heure. Les incivilités existent, la petite délinquance également. La précarité aussi, nous n'en entendons pas beaucoup parler. Mais la véritable insécurité peut aussi être véhiculée par ces discours et cette défiance envers la jeunesse.
Je vais vous donner la parole. Juste vous préciser que le coût de fonctionnement des caméras est de 10 à 20% du coût d'achat, que la maintenance est assurée par les vendeurs. Vous dire que l'intérêt de la place de Fayolle dans la vie de la cité, bien entendu, on la partage, d'où l'intérêt de la préserver. Déplacer le problème, certes, c'est une possibilité. Alors, est-ce que ça revient à dire qu'il ne faut traiter aucun problème de crainte de les déplacer ? Que la parole est libre. Quant à ramener la précarité sur le sujet que nous abordons actuellement, je trouve que c'est de la vraie démagogie. On est en train de parler de sécurité, on n'est pas en train de parler de précarité. C'est vous qui liez les deux choses. je trouve que c'est relativement dangereux. Monsieur Viennois.
C'était une des attentes phares de nos concitoyens, qui rêvait de rester une ville tranquille et sûre. Deux mesures. La première mesure que nous proposons est d'équiper tous les bâtiments publics de la ville de caméras de vidéoprotection qui fonctionneront à la manière d'une boîte noire comme dans l'aéronautique. Les données ne seront conservées qu'en cas de dévissement. Elles seront effacées et jamais visionnées. La deuxième mesure qui a été évoquée, que nous proposons sera d'assermenter deux agents municipaux en plus des deux qui existent déjà en définissant clairement leurs compétences dans une dimension de contact avec la population. Il s'agira principalement de constater et de verbaliser les infractions au code de l'environnement, au code de la route, telles que la lutte contre le tapage nocturne, la sécurité aux abords des écoles et la circulation gênante. Mes chers collègues, je dois vous préciser que je vais mettre des guillemets pour débuter cette allocution et je les referme maintenant. Car vous l'avez constaté, Madame Bonnard l'a dit, ces propos ne sont pas les miens, mais ceux de François Mazure, thématique Guéret 2020, 24 juin 2020, sur la sécurité et la prévention. La vidéo est encore consultable. Alors, mes chers collègues, je ne comprends pas bien la teneur de votre intervention, Madame Bonnard, en nous parlant de temps troublé, en nous parlant d'atteinte aux libertés individuelles, de marqueurs sécuritaires, qui a envie d'être filmé. Ces propos sont les vôtres, c'était, je suis même certain, les propositions 69, 70 et surtout la 68, équiper les bâtiments publics de caméras de vidéoprotection. Alors, je vous avoue que dès lors, pourquoi contester aujourd'hui, puisque c'est ce que vous souhaitiez et c'est ce que nous faisons, mot pour mot, point par point, que ce soit sur la cellule de tranquillité, vous terminiez même avec, vous nous avez repris et vous avez bien fait, la possibilité d'étudier la mise en place d'une police municipale. C'était la proposition 70. Alors, dès lors, aujourd'hui, je ne comprends pas bien pourquoi contester ce qui vient d'être présenté, voter contre. De deux choses l'une, bien vos propositions n'étaient dans la campagne que des modifications électorales, ou bien ce soir, vos interventions, et qui, malheureusement, viennent entacher le débat nécessaire en notre sein, là aussi, démagogie. On ne peut pas écrire et dire qu'on va équiper tous les bâtiments publics, y compris les espaces culturels, y compris donc la place Nelson, l'esplanade Nelson Mandela, et venir ensuite en dire, poser la question de savoir qui aimerait être filmé.
Merci de faire référence à notre programme, dont je vois que vous avez pris connaissance attentivement, et merci d'indiquer qu'il est toujours disponible effectivement en ligne. Moi, je ne vois pas du tout de démagogie dans mon intervention. J'ai toujours été sincère dans les propos que je tenais. Et je crois que peu de gens peuvent remettre en cause ma sincérité. Il y a une différence assez essentielle sur ce sujet. La première différence, c'est que quand je vous interroge en vous demandant protection des biens ou protection des personnes, c'est un sujet important sur lequel il faut trancher. Filmer des bâtiments et filmer l'espace public, ce n'est pas tout à fait la même chose. Je ne vais pas vous l'apprendre. Et sur le troisième point sur lequel je souhaitais revenir, sur la cellule de tranquillité publique, je ne vous cache pas que la position de notre groupe à l'origine était plutôt une abstention. Sur les éléments, effectivement, pour les éléments que vous venez tout à fait de pointer, monsieur Viennois, mais en revanche, sur les éléments d'explication, moi, ce qui me gêne le plus, en fait, très clairement, hein, dans la discussion telle qu'elle est abordée, dans le débat qu'il y a lieu ce soir, c'est que je n'ai pas de faits, je n'ai pas de chiffres, j'ai un sentiment d'insécurité. Et moi aussi, je pourrais citer notamment Madame Le Maire lors de la dernière commission mixte, qui nous dit aux membres de la commission mixte, qui est-ce que ça peut déranger d'être filmé quand on n'a rien à se reprocher? Et moi, c'est une phrase qui, pour moi, est vraiment importante. J'allais dire, il ne faut pas confondre les objectifs et les moyens. L'insécurité, l'incivilité, effectivement, nous avions l'intention de nous en préoccuper, et cela nous préoccupe. Mais alimenter un discours sur l'insécurité, je trouve ça très inquiétant.
Merci d'avoir cité François Mazure. Il est bon, François Mazure, vous devriez le consulter un petit peu plus souvent. Juste pour vous dire que pour être pour résumer les choses, oui à la vidéoprotection pour surveiller la sécurité des bâtiments publics. Oui. Je prends l'exemple de la bibliothèque. Nous avons installé des caméras qui filment à l'intérieur, le hall, l'entrée, et le parking en dessous dans l'espace sombre. Ça a été voté à l'unanimité à l'époque, à l'ouverture, il y a 10 ans, mais avec des objectifs clairs, précis, déterminés, pour la sécurité des bâtiments publics et des personnes là où c'était dans un endroit reculé et noir, sombre. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais je reprends les propos qui ont été dits tout à l'heure et que vous avez dit, vous, non sur l'esplanade de Nelson Mandela. Ce n'est pas un bâtiment public, c'est un espace public. Pour nous, non. Quand vous citez, ça empêchera les jeunes. Alors, là aussi, ne stigmatisons pas les jeunes parce que ça laisserait à penser que les incivilités, les incivilités, les problèmes ne sont liés qu'aux jeunes. Malheureusement, non. Et donc, quand vous citez, il y a du trafic sur l'esplanade Fayol, il y a de la vente de produits illicites, donc ça évitera ça. On n'est pas sur la surveillance des bâtiments publics ici. Donc, voilà, c'est une mission de la police nationale. Et en plus, si on mettait une caméra là, ça dépasserait le problème. On ne le règle pas. Donc, oui, la vidéoprotection pour surveiller les bâtiments publics. Peut-être que si on en avait eu, par exemple, à l'école Prévert, qui a été cambriolée plusieurs fois, on aurait peut-être retrouvé beaucoup plus vite. Et si on en avait eu, non pas pour surveiller tout le périmètre autour, pour surveiller juste les entrées. Donc, on positionne les caméras, parce que les policiers savent parfaitement à peu près, ils ont l'habitude et l'expertise de savoir où sont les endroits vulnérables dans le bâtiment où les cambrioleurs peuvent rentrer. Donc il suffit de mettre une caméra qui filme ces endroits-là. Donc en résumé, notre position, elle est très claire et elle est conforme à ce que vous nous avez lu, et je vous remercie d'ailleurs de vous l'avoir rappelé, parce que ça rappelle que nous, on avait un programme. Oui, pour les caméras de vidéoprotection pour surveiller les bâtiments publics, non pour l'espace public.
Monsieur Vernier.
Bien, mes chers collègues, quelle drôle d'idée. Quelle drôle d'idée dans cette période de Covid, de confinement, où les jeunes sont ceux qui vivent le plus mal ce moment, que de les montrer du doigt et de parler de surveillance. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais ça a été fait très clairement. Montrer les jeunes du doigt dans cette période-là, n'auriez-vous pas pu attendre quelques mois pour traiter ce dossier? Je trouve très franchement que votre décision pour ce dossier, au moment où vous le présentez, sans qu'on ait pu échanger préalablement entre nous, est une très mauvaise idée. Très mauvaise idée, sans parler du fond. Oui, que vous le vouliez ou non, vous stigmatisez une population. Oui, nous avons voulu que l'espace Nelson Mandela soit un espace accueillant où la jeunesse se rassemblerait le plus possible. Et où peuvent-ils se rassembler ailleurs? Nous avons même créé un point jeune à l'espace Fayol où ils étaient accueillis par des éducateurs pendant toutes les vacances où chaque soir, les jeunes se rassemblaient avec des activités. Eh bien, je vous le dis parce que c'est partout pareil. Que vous le vouliez ou pas, vous allez déplacer le problème. Quand les jeunes vont apprendre qu'ils sont surveillés, vous direz, mais non, on ne vous surveille pas, on surveille les bâtiments. Non, ce n'est pas un message qui est crédible. Ce n'est pas un message qui est crédible. Oui, ils se déplaceront. Et alors, est-ce que c'est le seul lieu de Guéret qui mérite dans ce cas-là d'être surveillé? Vous dites, il y a beaucoup de caméras sur Guéret. Oui, oui, il y en a des caméras sur Guéret, le chiffre. Je confirme, beaucoup à titre privé, hein, beaucoup à titre privé. Par exemple, la place Bognon et la rue Eugène France sont sous caméra. Ça n'a pas empêché les voitures de brûler à ces endroits-là. Et c'est pas ça qui a fait découvrir les gens qui les brûlaient. Alors, moi, je veux parler d'abord du fond. Je ne crois pas que les caméras de vidéoprotection permettent d'éviter les incivilités. Elles permettent peut-être de découvrir 4% du rapport. 4%. Et ce rapport, ce n'est pas moi qui l'ai fait. 4% des coupables arrivent à être, avec les caméras, arrivent à être reconnus, mais c'est tout. Donc, cette solution-là est celle que nous avions décidé, nous, de ne pas mettre en place dans dans le précédent mandat, parce que effectivement, c'est une façon de voir les choses, mais nous préférons très nettement, mettre l'argent que vous allez dépenser là-dessus sur la prévention, et notamment en direction des jeunes. Car moi, je n'ai pas la vision que vous avez de l'insécurité sur Guéret. Et c'est pas cette vision que me donnait le commissariat de police. Il voulait que nous installions des caméras. Je peux vous dire que l'assistant a été important pour la préfecture, le commissariat. Il voulait qu'on surveille les entrées et les sorties de Guéret, car à ma connaissance, la délinquance la plus importante sont les vols à l'intérieur des maisons. Et ces vols sont faits par des gens qui viennent de l'extérieur, qui utilisent la nationale 145 pour rentrer et sortir plus facilement. Ils sont organisés, ils pillent 2, 3, 4 maisons dans la journée et ils repartent. Et donc, ils voulaient qu'on mette des caméras, des points stratégiques de Guéret pour repérer les véhicules. Mais jamais ils ne m'ont parlé de l'espace Bayeul et de l'esplanade Nelson Mandela. Jamais. Jamais. D'ailleurs, nous aurions à ce moment-là, indiquer que nous refusions. Car ne vous étonnez pas, ne vous en faites pas, vous dites c'est expérimental, mais vous ne pourrez pas les enlever. Vous les avez mises, vous les enlèverez, puis on vous en demandera toujours plus. Vous en avez mis là, il faut en mettre là. Et vous aurez l'obligation, chaque fois, de mettre des caméras supplémentaires, comme vous aurez l'obligation, d'ailleurs, de mettre des gens sur la voie publique en nombre toujours plus grand, parce que la population, on leur dit, est-ce que vous voulez des caméras pour qu'on assure votre sécurité? 80% des gens vont vous dire oui. Quand on a posé la question à un moment, est-ce que vous êtes pour la suppression de la peine de mort? Non. Donc à un moment donné, politiquement, il faut assumer ses responsabilités. Et nous, nous avons dit non. Parce que nous pensons que ce n'est pas une bonne solution. Sur Guéret, je répète, cambriolage, sauf à vérifier, mais je vais vérifier. Violence familiale, vous ne pourrez rien y faire non plus. Tapage nocturne, vous ne pourrez rien y faire non plus. Vol à l'arraché, vous ne pourrez rien y faire non plus. Hall d'immeuble, vous l'avez dit vous-même, ce n'est pas vos agents qui vont verbaliser pour les vols à l'arraché. Vous savez ce que c'est qu'un vol à l'arraché? Et dans Guéret, il y en a quelques-uns. Hall d'immeuble, nos agents vont rentrer dans les halls d'immeuble. On va mettre des caméras dans les halls d'immeuble. Mais Guéret est la deuxième ville la plus sûre de France. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Venez vivre à Guéret, c'est la deuxième, la plus ville de France. Vous ne dites pas, venez vivre à Guéret, on installe des caméras pour votre sécurité. Dès que vous installez des caméras, vous donnez une impression d'insécurité. Oui, cela plaît. Cela plaît. C'est la mode. À Nice, les caméras, ça plaît. Résultat, malheureusement, on le connaît aussi. Alors, vous savez, c'est un sujet qui mérite autre chose que d'aller, que d'être un des premiers sujets d'un conseil municipal. Moi, je vous le dis vraiment comme je pense. Après, c'est votre responsabilité. J'ai entendu la plaidoirie de Guillaume Biennois. Elle était bien construite, elle était bien faite. Je la connais par cœur. J'ai la mienne. Et j'accepte que nous puissions ne pas être d'accord là-dessus. Prenez vos responsabilités, mais je connais par avance. Et j'espère que je me trompe. Je l'ai dit, et à chaque fois, c'est vrai. Je souhaite votre réussite. Je ne souhaite pas votre échec. Mais mettre la main dans les caméras que vous appelez de protection et qui en réalité vous dites mais c'est pour surveiller, c'est pas les caméras de protection puisque c'est fait pour surveiller. Oui, elles sont effacées au bout d'un mois. Vous direz ça aux jeunes, vous irez discuter avec eux. Est-ce qu'il y avait des incivilités? Oui. Est-ce qu'il y avait des jeunes qui se comportaient toujours très bien? Non. Eh bien moi je n'ai jamais eu peur d'aller les voir. Jamais. Et je sais que quelquefois ils étaient un peu alcoolisés, il y avait des odeurs de tabac qui me faisaient penser qu'ils pouvaient fumer, consommer tel ou tel genre de choses. Peut-être qu'il y en a-t-il ici qui en consomment également, le sait-on vraiment. Donc, attention, moi je vous mets, vous avez mis un doigt dans un engrenage, je le dis tranquillement, mais vraiment avec beaucoup, beaucoup de conviction, vous n'en sortirez pas. Faites très attention, et je vous le dis enfin pour dire, ce n'était pas le moment. Dans cette période où on est, la période de façon dont les jeunes vivent ce moment, quand ils vont voir que c'est là où ils viennent qu'on installe des caméras, à mon avis, le succès est garanti. Ah, les oui, ceux de la du club, comme vous l'avez dit, de gym, qui se sentent agressés, attendez, ils n'ont qu'à faire un peu de musculation, et ils ne se sentiront pas agressés, c'est pas sérieux tout ça. C'est pas sérieux. Moi, je vous le dis, comme je le pense, je n'ai pas vu de personne agressée par les jeunes dans Guéret, jamais.
Merci, Monsieur Bernier. Je vais passer la parole à Madame Bourdet. Juste, je ne sais pas si vous avez mal compris mon propos ou si vous n'avez pas voulu le comprendre. Et notre souhait, c'est de protéger les jeunes qui fréquentent cette esplanade et non pas de les porter, de les montrer du doigt. Donc, je souhaite apporter cette précision. Madame Bourdier.
Oui, juste un mot pour revenir sur la cellule de tranquillité publique. Je pense effectivement qu'en termes de timing, on n'est pas très bon, au sens où effectivement la crise actuelle ne permet pas une réflexion sereine sur ces questions-là, me semble-t-il. La situation n'est pas analysable comme à l'ordinaire. Et le deuxième point, c'est que créer une cellule de tranquillité publique et une commission qui va travailler dans ce domaine-là m'aurait paru plus intéressant d'échanger, justement, de confronter les expériences, d'en discuter, plutôt que d'entrer dans un débat ce soir où, finalement, la décision, vous l'avez déjà entérinée. Moi, je pense que, même dans votre groupe, j'ai pu l'entendre le soir de la commission mixte, il y a, je pense qu'il y a même au sein de votre propre groupe, il y a une fragilité de la conviction sécuritaire. Je l'ai ressenti, j'en suis tout à fait persuadée, et je pense que ça méritait, effectivement, sans entrer dans le débat de fond, justement, je ne veux pas y entrer aujourd'hui, je crois que ce n'est pas le jour, mais je crois que ça méritait qu'on échange sur ces questions-là dans un autre contexte et avec beaucoup plus de sérénité. Je ne sens pas non plus l'urgence de cette question. Par contre, je sens l'urgence d'une vraie réflexion commune sur ces questions-là, et j'y suis prête, bien entendu.
Monsieur Correa.
Oui, Madame le Maire, moi, ce que je regrette, c'est que nous n'avons pas de plan de positionnement qui accompagne cette délibération, même si on me dit qu'elle a été, ça a été présenté en commission, mais on n'a pas les documents qui vont avec. Parce qu'encore une fois, moi, pour surveiller les bâtiments et l'entrée, la vulnérabilité des bâtiments, l'espace Fayol a été cambriolé plusieurs fois, par exemple. Donc, pour surveiller des bâtiments publics, pourquoi pas, mais non à l'espace public. Sauf qu'aujourd'hui, on nous demande de délibérer sur un principe, une expérimentation, sans les plans, les positionnements, les champs, est-ce que ça balaye à 360, à 180 jours, voilà, je ne connais pas les techniques de ça. Est-ce que c'est que j'ai pas eu le plan, moi, dans le... Enfin, pourquoi on n'a pas le plan qui accompagne ça dans la délibération? Parce que ça me semble quand même important.
Excusez-moi. Oui, on n'a pas dit qu'on luttait contre l'insécurité, on a dit qu'on luttait contre le sentiment d'insécurité. Les deux choses sont différentes. Après, photographie de l'espace public. Entendons-nous bien, nous, ce qu'on a préparé, c'est une photographie des entrées de l'espace Fayol. Les entrées de l'espace Fayol, ce n'est pas une photo. On ne va pas photographier dans l'espace Fayol. Et pour savoir qui entre et qui sort, quand la police municipale fait des pentes, la police nationale va faire des interventions, de savoir qui c'est, parce qu'il ne peut pas bloquer tout l'espace, c'est pour savoir qui est entré et qui s'est entré. Ce, sur un mois. Après, soyons un peu raisonnables, Eric, quand tu dis que vous photographiez les bâtiments, soit quand vous photographiez l'entrée, vous photographiez les gens qui rentrent. Bon, nous, on va photographier les gens qui rentrent dans l'espace sérieux. Surveiller et à filmer les gens qui vont. Après, Nous, ce qu'on veut prendre en. C'est juste l'entrée du côté de la rue d'Antenne Poulière, juste l'entrée du côté de la des gens de Tille, l'entrée du côté de piscine et l'entrée d'escalier. Dedans, non. Non, ce n'est pas partout, ce n'est pas à l'intérieur. Les gamins,
c'est les entrées, les escaliers.
Les entrées. Ça, c'est la première. Ça, c'était une chose. Sentiment d'insécurité et la sécurité, c'est un peu différent. Et vous ne pouvez pas nier que dans Guéret, nous, à chaque fois qu'on s'est promené pendant la campagne électorale, ça nous a tapé en pleine tête à chaque fois. On est bien d'accord. Maintenant, on me parle de dialogue et on me parle de on aurait pu en discuter avant, etc. Oui, on en pourrait en discuter avant, sauf que c'était très ouvert. Depuis 6 mois, on en parle et on en parle à tout le monde. Nous, on n'empêchait personne de venir nous voir et de nous en parler en dehors des commissions. Voilà. Donc c'était un poil d'irritation que je vais vous traiter.
Madame Bonin.
Oui, sentiment d'insécurité, insécurité, on pourrait en parler longtemps. Moi, si je vous dis que voir des caméras, ça alimente mon sentiment d'insécurité, on ne va pas avancer, on peut continuer à débattre là-dessus. D'où l'intérêt d'avoir des faits, d'où l'intérêt d'avoir un diagnostic de sécurité, d'où l'intérêt d'avoir une concertation. Alors, pas forcément avec les élus de ce groupe, parce que bien sûr, la discussion a eu lieu dans les commissions, mais avec les usagers. Michel Vernier l'a rappelé, si vous demandez aux gens s'ils ont des problèmes de sécurité, d'insécurité, de sentiment, ils vont vous dire oui, évidemment. Est-ce que les parents d'élèves ont été consultés? Est-ce que les usagers de la bibliothèque qui peuvent être impactés par ces caméras, moi j'ai pas vu le plan, donc je ne sais pas où elles sont, et ça n'a pas été joint au dossier, sont d'accord pour être filmés lorsqu'ils se rendent à la bibliothèque? Est-ce que vous nous évoquez la question des sorties de salles de sport, etc. Sur une période aussi courte, depuis l'élection, avec les mesures sanitaires qui font que bon nombre d'équipements ont été fermés, est-ce que c'est représentatif d'une réalité quelle est cette réalité? Voilà, les éléments factuels me paraissent importants pour alimenter la réflexion et le débat. Et je ne sais toujours pas ce qu'on va filmer.
Deux choses. On parle d'une demande de subvention. Donc, ça va être effectivement cette demande de subvention qui vous est soumise pour l'installation. Je crois que ceux qui travaillent en commission avec nous et qui sont sur le terrain vont effectivement constater que nous sommes là aussi dans la discussion, dans les échanges et les améliorations. C'est le premier point. Deuxièmement, je voudrais aussi, nous sommes tous, à titre personnel, pas très attaché aux libertés individuelles, je suis non seulement à titre personnel, mais également par l'expérience professionnelle qui fait que c'est quelque chose d'essentiel pour moi. Quand on se promène place Bonneau, et qu'on remonte pour aller à Monoprix, pour aller au Cabat-Causois, il y a une jolie caméra de surveillance qui filme même, je me pose la question sur mon balcon professionnel, ce qui m'oblige à faire très attention, et pour autant, ne pas avoir entendu lorsque cette caméra a été installée, effectivement, de plainte ou même aller aujourd'hui. Donc, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une demande de subvention qui vous est proposée sur un projet, effectivement, qui a été repris par au moins 2 listes, et tant mieux. Et c'est la raison pour laquelle, dans le travail ensuite, nous pourrons aussi, une fois que nous aurons les subventions, travailler et nous communiquerons comme nous l'avons toujours fait. De la manière dont nous travaillons, et nous pourrons effectivement voir les endroits précisément des bâtiments publics où elles seront installées.
Oui, monsieur Correa, et puis monsieur Brunetti, puis après on essaye d'avancer un petit peu.
Oui, oui, mais.
Le
débat est important.
Oui, 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 mais il pourra aussi se.
Juste pour dire à monsieur Viennois que la caméra qui est installée sur le périmètre de la préfecture, nous n'avons pas, on n'a pas demandé notre avis. Hein. D'accord? Voilà, donc là-dessus, et si on nous l'avait demandé, je suis pas sûr que... Okay, pour surveiller la porte d'entrée de la préfecture, oui, mais je crois que la caméra, elle fait même jusqu'en bas, jusqu'au rond-point de l'Europe. Hein. Voilà. Donc, personnellement, j'aurais pas voté pour, mais bon. Deuxième chose, j'ai bien compris que c'était que des demandes de financement, d'accord. Mais si demain on les installe sur des endroits, enfin, moi encore une fois, si c'est, j'ai entendu, c'est pour surveiller l'espace Mandela. Si ça surveille l'espace Mandela, pour moi c'est non. Si c'est pour la sécurité des bâtiments publics, alors effectivement, en soi, à la bibliothèque, il y en a une qui est à l'entrée, ça filme et ça, il y a des gens qui rentrent et qui sortent. Hein. Mais on est dans, à l'intérieur du bâtiment, donc bon, moi ça me on est bien dans la surveillance d'un bâtiment public, mais aussi, ça surveille les portes d'entrée en dessous et donc sur les endroits vulnérables où, à l'époque, le policier qui était en charge nous a dit c'est vulnérable là, 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 et les faisceaux des caméras sont orientés dans ce sens-là et dans ce sens-là, mais vers le bâtiment, pas vers la rue, l'espace public. Donc je n'ai pas compris, en fait, quand tu dis ça surveille à partir de l'entrée de la rue de la Poudrière, donc c'est de la rue de Poudrière jusqu'à l'espace Fayolle, donc tout un trajet, donc l'esplanade Mandela ou pas. Voilà, c'est quand même important parce qu'on peut être d'accord pour voter le financement pour acheter des caméras, mais pas du tout d'accord de la manière dont elles vont être déployées. Donc, on est obligé de lier les deux. Je suis désolé, mais voilà.
Nous avons le diagnostic que nous a fait donc l'expert du commissariat. Je vous proposerai qu'on en rediscute en commission sécurité rapidement, hein, pour que voit ensemble l'orientation des caméras et le projet qui était celui qui était proposé. Monsieur Brunati, et puis on va passer au vote.
Ouais, juste rapidement, on vient de créer un service de tranquillité publique. J'ai voté pour, contre l'avis de certains membres de mon groupe. Moi, je dis laissons-le travailler. Laissons travailler un comité de suivi ou une commission avec, et à ce moment-là, on pourra définir un schéma global, un diagnostic global, parce que là, on ne sait pas. Est-ce que, pourquoi cet espace Nelson Mandela est-il le seul lieu où il y a des vrais problèmes sur Guéret? Un sentiment, oui d'accord, mais il y a peut-être d'autres endroits où c'est plus, ça serait peut-être plus opérationnel. Parce que lutter contre un sentiment, ça veut rien dire. Il faut des chiffres, il faut des faits et il faut une réflexion globale. Et moi, je suis gêné. Autant, j'ai pas été gêné contre l'avis de certains de voter pour le service de tranquillité publique. Autant là, j'ai l'impression qu'on met la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire que on réagit sur une conclusion qu'on n'a pas encore étudiée, qu'on n'a pas encore travaillée et qui n'est pas argumentée. Voilà. Merci.
De passer au vote sur cette demande de subvention et que ce diagnostic et l'implantation des caméras soient rediscutés en commission sécurité. Donc, sur la subvention, oui, donc vous votez en connaissance de cause. Donc, sur la subvention, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Une abstention. Donc, ce n'est pas 8, c'est 7. C'est 7 votes contre et une abstention. Alors, le dossier suivant concerne l'opération de revitalisation du territoire. Nous sommes là dans l'avenant numéro 1 à la convention Action Cœur de Ville qui va valoir, si vous le validez, opération de revitalisation du territoire. Cet avenant s'étend sur la période 2021-2025. Donc, pour faire un bref rappel, en 2018, la ville et l'agglo ont formulé ensemble un projet de revitalisation du cœur de ville. L'État vient en soutien avec ses moyens d'expertise et ses moyens financiers. Cette convention offre surtout des moyens de cofinancement des études parce qu'il recourt en fait, l'État recourt en fait au dispositif de droit commun pour le financement des projets. Les principes de la démarche obligent à s'accorder sur un projet commun et partenarial, à asseoir une stratégie d'action sur une analyse fouillée de la situation, obligent à définir un périmètre d'intervention et à agir sur l'ensemble des leviers que sont l'habitat, le commerce, l'accessibilité, la mobilité, l'aménagement urbain, les équipements et services. Alors, en ce qui concerne cet avenant Valant ou RT, il s'agit donc, vous l'avez vu dans les pièces annexes, de tirer les enseignements des diagnostics pour formaliser une stratégie et une programmation d'action qui soit un peu plus aboutie. L'intérêt de l'ORT, qui, je le répète, a été créé par la loi Élan en octobre 2018, est d'inscrire dans la loi la démarche Action Cœur de Ville, en la généralisant et en créant des effets juridiques. Ça, c'est très important, parce que ça nous permet de contrôler le développement commercial en dehors du centre-ville. Ça nous permet de faciliter l'aménagement de ce cœur de ville et de favoriser la réhabilitation des immeubles. On ne peut avoir qu'une ORT par intercommunalité. L'ORT définit la stratégie et le projet urbain, le périmètre d'intervention, le programme d'action, le plan de financement des actions et le calendrier. Alors, en matière de périmètre, ce qui vous est proposé, c'est de le limiter au cœur de ville pour pouvoir agir sur un périmètre réduit, un périmètre qui concentre toutes les difficultés et qui joue mal son rôle de centre attractif d'un bassin de vie. Il s'agit de mettre le maximum de ressources sur le centre-ville, le quartier politique de la ville et le quartier de la gare, dans la perspective à venir un jour d'un éventuel pôle multimodal. Alors, il sera toujours possible de faire des avenants si jamais d'autres communes de la Com d'Aglo souhaitaient tenter une opération de ce type-là, dans la mesure où ça ne nuira pas à la redynamisation du cœur de ville, on pourra tout à fait admettre des avenants. Alors, le contenu qui vous est proposé sur cette ORT, c'est d'abord l'actualisation du diagnostic qui avait été fait au départ pour la convention cœur de ville, une actualisation aussi de la stratégie qui en découle. Alors, on a souhaité aussi simplifier le programme d'action et affiner les éléments budgétaires. C'est bien normal, dans une première convention, on est sur des choses plus approximatives. Là, avec le recul et les études qui ont été menées, on était en capacité de pouvoir proposer un programme d'action et des financements beaucoup plus posés. Donc, les actions prévues dans la convention cœur de ville, dont la faisabilité ou les modalités de faire étaient incertaines, ont été supprimées ou renvoyées à ce qu'on a appelé des actions dites complémentaires, qui ne seront donc pas engagées en 2021. On a essayé de vraiment mettre en exergue les actions qui pouvaient démarrer rapidement. Alors, il y a des actions aussi qui formulaient plutôt un objectif, plutôt qu'un projet vraiment opérationnel. Et là aussi, on l'a renvoyé sur 2022 pour que cet objectif soit affiné et que les porteurs de projets puissent réellement en faire quelque chose de concret, de budgétairement plus précis. Alors, sur ces actions qui demandent à être précisées et qui le seront pour 2022, vous avez par exemple l'accessibilité au cœur de ville, l'aménagement urbain du centre-ville, le maintien du niveau des équipements et services. Ça, ce sont des concepts sur lesquels on s'accorde tous, mais qui demandent effectivement à se transformer en objectif opérationnel. Voilà, donc vous dire pour conclure que le Conseil communautaire a validé cette ORT lors de sa réunion du 10 décembre et que l'ORT, l'OPAERU, que je vous présenterai ensuite, et la Convention Action Logement qui sera présentée aussi dans la foulée, font un tout et que notre idée, c'est, avec la Com d'Aglo, de regrouper les signatures de ces trois documents le 15 janvier pour pouvoir effectivement démarrer sur des projets plus opérationnels. Voilà, est-ce qu'il y a des interventions ou des questions? Non. Donc, je vous propose... Pardon, Monsieur Delay.
Très brièvement, je ne pose pas de débat, je pense que ces programmes de réhabilitation des centres-villes illustrent à la fois la nécessité de mieux contrôler l'engagement des dépenses publiques locales, permises par des financements extérieurs, et en même temps toutes les méandres de l'administration à la française. La majorité municipale a eu bien des urgences à gérer depuis sa prise de fonction, et je veux souligner, là encore, conformément à ses promesses de campagne, son souci de prendre ce dossier à bras-le-corps, malgré les incertitudes, malgré les difficultés, malgré aussi les défaillances d'autres instances. L'engagement des services municipaux sera déterminant et je veux dire ici le plaisir que j'ai de travailler avec eux, en compagnie de tous les élus en charge de ce très lourd dossier. Je veux notamment souligner le rôle de Monsieur Germain, qui souffre de l'austérité inhérente à la complexité technique de ces dossiers. mais dont l'expertise technique, justement, nous est ô combien précieuse. Alors, les impatiences de la population sont multiples en la matière et nous les comprenons. La prochaine étape doit être celle de la mise ou remise, pour certains, en route, des groupes de travail et des comités divers de pilotage intégrant largement les nombreuses parties prenantes. Voilà, je pourrais faire la même intervention s'agissant du point numéro 9 de l'ordre du jour sur le programme Action commerciale, sur le programme de l'action cœur de ville. Je me contenterai de celle-là.
Merci. Alors, c'est vrai que cette action cœur de ville a pu donner l'impression de piétiner, mais je pense qu'il fallait en passer par l'étude obligatoire des études de terrain, des différents diagnostics, des différentes propositions qui pouvaient nous être faites. Et donc, je pense qu'autant la mairie que la Comme d'Aglo ont été proactives sur ce dossier, mais on en est passé par une très, très longue phase, effectivement, diagnostique, qui nous rend tous impatients de pouvoir démarrer. Et je sais que c'est effectivement une impatience qui est partagée par les habitants et puis par les acteurs contribue à ce programme Action Cœur de Ville. Donc, efforçons-nous cette année d'enfin concrétiser certaines actions pour que ça devienne visible, cette opération qui est très intéressante, mais qui est effectivement toujours très longue à démarrer. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Donc, si vous le voulez, je vous propose d'approuver l'avenant à la convention Action Cœur de Ville Valent ORT, et de m'autoriser à signer cette convention. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Donc, ensuite, on passe à l'OPARU. Alors, la signature de la convention OPARU du centre-ville de Deguerre, donc même période 2021-2026. Alors, l'OPARU, c'est l'opération programmée de l'habitat et de renouvellement urbain. Alors, l'OPA, c'est une offre de services qui propose de l'ingénierie et des aides financières par convention avec l'État et l'ANA. En général, c'est d'une durée de 3 à 5 ans, donc nous sommes sur une durée de 5 ans. L'idée, c'est de partir d'un diagnostic des problèmes qui sont recensés sur un périmètre choisi, de faire une étude préalable et de préconiser des solutions. À la suite de ce diagnostic, on signe une convention et cette convention va permettre de mettre en place ce qu'on appelle une mission de suivi animation. Donc, l'étude opérationnelle qui s'est déroulée d'avril 2018 à juin 2019 a permis de déterminer l'opportunité et les conditions de la mise en œuvre de l'OPARU du centre ancien de la ville de Guéré. Par délibération du 24 octobre 2019, le conseil communautaire a validé le programme de ce dispositif. Par délibération du 25 novembre 2019, le conseil municipal a validé lui aussi la mise en place d'une OPARU sur le centre-ville de Guéret et a validé le programme. L'OPARU du centre-ville de Guéret vise à participer à la mise en œuvre d'un projet urbain global via une action publique volontariste en faveur de l'amélioration du parc immobilier privé et du cadre de vie. Pour cela, elle s'appuiera sur des moyens opérationnels renforcés, financement et ingénierie, et mettra en œuvre les dispositions et outils adaptés au traitement des différentes situations rencontrées. Repérage, veille, contrôle et traitement du parc immobilier déficient, incitation des propriétaires occupants et des bailleurs privés via un subventionnement des travaux, mise en œuvre d'outils coercitifs lorsque l'incitation ne suffira pas, traitement de l'insalubrité, démolition, action foncière sous déclaration d'utilité publique ou non. Ces outils sont souvent indispensables, en particulier pour le traitement cohérent de l'ensemble d'un îlot bâti. Plusieurs îlots ont été identifiés et priorisés pour la mise en œuvre d'opérations globales de renouvellement urbain. L'OPARU s'inscrit pleinement dans le cadre du programme d'action globale de redynamisation du centre-ville de Guéret, porté par la ville de Guéret et l'agglo du Grand Guéret. L'OPARU sera ainsi étroitement articulé aux opérations d'amélioration du cadre de vie, espace public, commerce et équipement du projet ACV. Alors, les aides aux travaux des propriétaires occupants sur les 5 années, elles porteront sur... Alors, c'est des objectifs qui nous sont donnés par l'ANA et qui permettent de déterminer un plan de financement. 35 logements de propriétaires bailleurs dont 8 en maîtrise d'ouvrage d'insertion, ça c'est sur les bâtiments les plus dégradés, 5 primes d'intermédiation locative pour les propriétaires bailleurs, 25 logements de propriétaires occupants, là on est sur des travaux lourds sur l'habitat indigne, des travaux d'amélioration de la performance énergétique et des travaux en faveur d'autonomie des personnes âgées ou des personnes handicapées. 30 interventions dans le cadre du dispositif Opération Façade, 10 aides à l'accession pour favoriser la sortie de vacances, 5 primes d'intermédiation locative pour les propriétaires bailleurs, ça c'est quand les propriétaires souvent ne sont pas sur place et ont besoin d'un intermédiaire, 25 logements de propriétaires occupants, travaux lourds sur l'habitat indigne, l'amélioration, là on l'a déjà dit, pardon, c'est, on le répète, excusez-moi. Donc j'ai un copier-coller, excusez-moi, vous n'en tenez pas compte. La mise en place d'une ingénierie adaptée, l'équipe retenue pour assurer le suivi de l'animation de l'OPA-RU au terme d'une procédure d'appel d'offres ouvert, et le groupement composé de Solia Limousin, le Creuset Méditerranée et Arcus, études sociales et urbaines. En complément de la mission de suivi et animation de l'OPA-RU, l'équipe réalisera une étude de faisabilité de l'opération de restructuration immobilière, accompagnera l'agglomération et la ville sur la mise en place d'une prime accession et sur la définition des modalités de mise en place et d'animation du permis de louer. C'est la prime accession dont on parlait plus tôt. Alors, en ce qui concerne le financement de ce programme, sur une estimation de 3 865 560 euros de travaux générés sur le centre-ville en 5 ans, le montant total des aides aux travaux s'élèvera à 2 341 950 euros, répartis entre l'ensemble des financeurs. L'ANA, 1 230 450 euros, la Comdaglo, 718 600 euros, la ville de Guéret, 392 900 euros. Des aides complémentaires seront apportées par les partenaires de l'OPA-RU suivant leur règlement d'intervention et leur crédit disponible. Vous les avez, qui vous sont décrits. Le coût total de l'ingénierie pour les 5 années s'élève à 660 840 euros TTC. Elle fait l'objet d'un cofinancement de l'ANA pour 48%, de la Banque des Territoires pour 18%, et la part de la Comdaglo s'élève à 227 840 euros. La mairie n'intervient. Voilà, donc je rappelle que le Conseil communautaire du 10 décembre a validé cette convention et donc je vous demande de m'autoriser à la signer et à solliciter les partenaires financiers pour l'obtention des subventions. Est-ce qu'il y a des interventions? Bien, monsieur Delettre.
Oui, alors. Il me semble avoir observé qu'il y a 3 îlots qui doivent faire l'objet d'engagements très importants sur le plan financier. Est-ce qu'il y a un ordre de priorité qui a été défini entre ces 3 îlots? Et puis, deuxième question, même si je sais que ça va faire grincer des dents, mais j'observe que la participation financière de la communauté d'agglomération est importante, on est pratiquement à 1 million d'euros. Compte tenu de sa situation financière, ces engagements sont-ils garantis?
Les engagements de la Comdaglo sont garantis dans la mesure où le projet a été voté par le Conseil communautaire à l'unanimité. Effectivement, donc ces crédits sont inscrits au budget de l'agglo. Quant aux îlots, donc il n'y a pas de priorité qui a été déterminée. Tout va dépendre aussi de la capacité que nous aurons à acquérir ou pas certains bâtiments et à faire avancer les projets concernant ces îlots. Donc on a 3 îlots sur lesquels on avancera de concert et qui évolueront chacun à leur rythme. Pas d'autres questions? Donc est-ce qu'il y a des votes contre sur cette convention? Des abstentions? Je vous remercie. Monsieur Gergadenec, je vous passe la parole pour la modification des tarifs.
Modification des tarifs. Il est proposé au Conseil municipal d'adopter les tarifs dont vous avez reçu les annexes et de les faire entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Donc, il s'agit en fait, comme vous l'avez vu dans les annexes, de toutes les prestations liées à la mairie de Guéret, Ça va des tarifs des prestations funéraires aux tarifs de la prestation funéraire